Nous allons confier cet après-midi à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça va? Est-ce que ce matin dans l'enseignement, je ne vous ai pas trop perdu? Non? Alors nous continuons. Nous avons vu cette notion sur laquelle le pape insiste, le peuple au sens beau et grand d'un chemin de communion à vivre qui peut intégrer toute personne. Et là, il y a des choses à inventer, il y a des objectifs à pointer pour que chaque personne puisse être considéré dans sa dignité, qui est inaliénable, qui qu'elle soit, cette personne. Et c'est là qu'il parlait d'objectifs incontournables que doit pouvoir avoir la politique, au sens de cette politique qui sert la fraternité universelle et la paix sociale. Alors, comment ?
Je ne comprends pas tout. Excusez-moi, je ne comprends pas tout.
Je ne parle pas assez fort.
Oui.
Voilà, on va rapprocher un peu.
Merci.
Voilà, merci de l'avoir signalé. Alors, à un moment donné, dans ce chapitre 5, le pape parle aussi des visions libérales individualistes comme étant des visions qui ne rencontrent pas nécessairement cette dimension du peuple au sens où le pape en a parlé précédemment. C'est ainsi que au numéro 163 il nous écrit ceci: la catégorie de peuple, on sait ce qu'il y a là derrière maintenant, on l'a vu ce matin, la catégorie de peuple qui intègre une valorisation positive des liens communautaires et culturels, qu'on intègre une valorisation positive des liens communautaires et culturels, cette catégorie de peuple est généralement rejetée par les visions libérales individualistes où la société est considérée comme une simple somme d'intérêts qui coexistent. Vous voyez ? La société est bien plus qu'une simple somme d'intérêts qui coexistent. Alors, c'est là que la charité dont il parle et qui est appelée à être aussi, mais il faut le comprendre, ce moteur de la politique, et de la meilleure politique comme il le dit, eh bien, vient être en effet au service de ce qui dépasse des intérêts particuliers, mais prend en considération l'autre. Au numéro 165, la vraie charité doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle. Hein, ce sont les rencontres qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc le pape nous dit, la vraie charité doit se manifester dans les rencontres interpersonnelles. Elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloigné. La vraie charité est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloigné, voire ignoré, à travers les différentes ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative, sont en mesure de créer. Donc, les ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative, sont en mesure de créer, sont aussi la vraie charité. Le vrai visage de la charité n'est pas seulement dans le rapport interpersonnel qu'on peut avoir. Mais il vient dire par là que la prise en compte de ce qui est mis en œuvre au cœur d'une société peut avoir aussi le visage d'une vraie charité qui va toucher des personnes que parfois ignorées, qu'on ne connaît pas individuellement parlant. Hein? Par ce que cette société va mettre en œuvre, hein? Par exemple, pour que ne soit pas, c'est moi qui rajoute là, mais il le développe plus loin avec d'autres mots, pour que ne soit pas exclu telle ou telle catégorie, par exemple, hein, de la société. Mais c'est de la vraie charité, ça aussi. Voilà. Vous voyez, à un moment donné, je vais essayer de retrouver cet exemple qu'il donne un peu plus loin. Voyez, si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, charité qui se vit dans la relation interpersonnelle, hein, si quelqu'un aide, je suis au numéro 186, si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, l'homme politique crée pour lui un poste de travail et il exerce un genre très élevé de charité en lui créant un poste de travail. Il exerce un genre très élevé de charité qui ennoblit son action politique. Vous voyez, donc la vraie charité, c'est à la fois celui qui va fournir la nourriture à celui qui en a besoin, et puis c'est aussi le vrai travail politique qui va essayer de mettre en place les structures, ce qui est nécessaire pour que davantage de personnes puissent en effet vivre aussi de leur travail, s'épanouir aussi dans un emploi, etc. Et il exerce ainsi, cet homme politique, un genre très élevé de charité, nous dit pas. Voilà. Donc, c'est voilà. Hein, il prend un autre exemple juste au-dessus, dans ce même numéro 186. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière, et c'est de la charité exquise, dit-il. Donc, la charité interpersonnelle. Le dirigeant politique, lui, construit un pont. Et c'est aussi de la charité. Oui. Et donc, à la lumière de cela, ben voilà. Hein, je reprends avec ces exemples la phrase du numéro 165. La vraie charité doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle. Elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloigné, voire ignoré, à travers les différentes ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative sont en mesure de créer. Voilà. Donc, on voit bien qu'ainsi, il conduit à dire qu'au fond, le véritable moteur de la politique est la charité. C'est ce qu'il développe dans la suite. Il prend l'exemple à un moment donné aussi, juste dans ce même numéro 165, du bon samaritain dont il nous avait parlé au chapitre 2. Et il dit, même le bon samaritain qui a eu un acte de charité dans une relation interpersonnelle, il n'a pas laissé au bord du chemin, hein, mais il dit, même le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge. À lui tout seul, quelque part, dans son acte de charité, dans cette relation interpersonnelle, il ne pouvait pas, lui tout seul, venir à bout de combler le besoin de cette personne à qui il a porté secours au bord du chemin. Même le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge qui lui a permis de résoudre ce que, tout seul, en ce moment-là, il n'était pas en mesure d'assurer. Voilà. Je trouve ça très beau aussi, parce qu'en même temps, la charité, la vraie charité, comme nous dit là le pape François, c'est pas de se positionner en sauveur de l'autre. Non, non. La vraie charité appelle quelque part une interdépendance de charité, d'un mouvement de charité. C'est moi qui mets les mots là-dessus, mais voyez, j'y apporte pour ma part, un autre y apporte pour sa part. Le politique, en structurant ce qui peut être structuré de manière en mettant pour objectif la dignité inaliénable de toute personne, y apporte aussi pour sa part, par la construction de ponts, d'auberges, de je ne sais pas tout quoi. Voilà. Et cette lecture nous évite aussi de tomber dans le piège qu'on doit pouvoir tout résoudre du problème d'un autre par soi-même. Tentation du sauveur, entre guillemets, hein, de se prendre pour le sauveur de l'autre. C'est au fond toute la société qui est quelque part appelée à être charitable. Alors bon, on sait bien que si on regarde ce qui se vit, ce qui se passe, on n'y est pas. C'est à nouveau pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour nous dire, tiens, comment, à partir de ce qui est, faire un petit pas. Voilà. Voilà. Alors, à un moment donné, le pape va pointer une fragilité présente au cœur de l'humanité. Une fragilité présente au cœur de l'humanité depuis que l'homme est homme. Ça veut dire une fragilité qu'on doit prendre en considération. Pour essayer d'y pallier, hein, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'il nous dit au numéro 166. Hein, cette fragilité, voilà, je vous lis au numéro 166. Le plus grand danger, nous dit le pape, ne réside pas dans les choses, dans les réalités matérielles, dans les organisations, mais dans la manière dont les personnes les utilisent. C'est pas les choses, les organisations, les réalités matérielles qui sont le danger au cœur de notre humanité. C'est la manière dont les personnes les utilisent. Le problème, dit-il, le problème, c'est la fragilité humaine, la tendance constante, et l'emploi des mots forts, hein, la tendance constante à l'égoïsme de la part de l'homme, qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle concupiscence. Voilà, la fragilité de l'être humain qui est là depuis que l'homme est homme, c'est la concupiscence. Cette fragilité constante à l'égoïsme de la part de l'homme. Et là, le pape nous dit, mais si on veut construire, hein, je le dis avec mes mots à moi ici, si on veut construire une société où le politique est au service de la fraternité universelle, de la paix sociale, eh bien, il faut voir cette réalité bien en face, que l'homme, depuis qu'il est homme, est habité d'une tendance constante à l'égoïsme, qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle concupiscence. Deux points, et là, voilà, la concupiscence, le penchant, vous voyez, c'est un penchant, ça veut dire qu'il va falloir que ce qu'on puisse mettre en œuvre, comment je vais dire, ne soit pas encore un encouragement à ce penchant, mais plutôt un redressement à ce penchant. Le penchant, il est là, voilà, hein. La concupiscence, le penchant de l'être humain à s'enfermer dans l'immanence de son moi, de son groupe, de ses intérêts mesquins. Vous voyez, ça, c'est le penchant, c'est la tendance, c'est, on va dire, ce vers quoi spontanément l'être humain va glisser quelque part. Vous voyez, le penchant de l'être humain à s'enfermer dans l'immanence de son moi, de son groupe, de ses intérêts mesquins. Cette concupiscence existe depuis que l'homme est homme, nous écrit-il. Dès lors, il souligne cette réalité, non pas pour écraser l'être humain, à nouveau, c'est pas écraser l'être humain, c'est voir ce qui habite la réalité de l'être humain et cette fragilité qui traverse l'homme depuis que l'homme existe. Et donc, il faut faire avec. Mais il faut faire avec, non pas pour encourager ce penchant, mais pour tenter de le freiner, de le rectifier. Vous voyez ? Et là, au numéro 167, tout l'enjeu de l'éducation, par exemple. Je lis le 167. Le travail d'éducation, le développement des habitudes solidaires. Vous voyez, c'est le remède, quelque part. Le pape pointe une fragilité dans l'être humain, elle nous traverse tous d'une manière ou d'une autre. Et puis il nous dit, mais la société qui est composée de tous ces êtres humains marqués de la concupiscence, eh bien, il y a un remède qu'elle est appelée à développer en son sein, cette société. Et ce remède a différentes couleurs, différentes formes, différentes réalités. Le travail d'éducation en est une. Le développement des habitudes solidaires. Hein? Prendre des habitudes solidaires et développer les habitudes solidaires. Troisièmement, la capacité de penser la vie humaine plus intégralement. Capacité de penser la vie humaine plus intégralement. Quatre est la profondeur spirituelle. Ce sont là une caisse à outils qu'il nous donne, vous voyez, pour encourager l'humanité à ne pas se laisser aller dans son penchant qui est là, mais à le redresser ou à le rectifier comme il le peut, par l'éducation, par le développement d'habitudes solidaires, par penser la capacité de penser la vie humaine plus intégralement. Et la profondeur spirituelle, nous dit-il, sont nécessaires, ces quatre outils, sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines. Voilà, vous voyez, pour assurer la qualité des relations humaines, je suis au 167, hein, de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ses propres inégalités. Voyez ? De telle manière que ce soit la société humaine qui réagisse face à ses inégalités, les siennes. Ces inégalités liées à la concupiscence qui habite tout homme, qui compose une société. Eh bien, le pape nous dit, il y a cette caisse à outils, ces outils sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ses inégalités, à ses déviations. Parce que ce sont les inégalités propres à la société, ce sont les déviations propres à la société, hein, parce que l'homme, depuis qu'il est homme, tac tac, ok ? Aux abus de pouvoir économique, ces abus à la société de pouvoir économique, hein, technologique, politique ou médiatique. Voilà. Finalement, la concupiscence conduit naturellement, si je mets les mots à moi là-dessus, hein, mes mots à moi, eh bien voilà, à tout ce qu'il dit là, aux inégalités de la société, à ceci, à ces déviations, aux abus des pouvoirs économiques, technologiques, politiques ou médiatiques. Le pape nous dit, là, pourquoi ? Parce qu'il y a une fragilité en effet, voyons-la en face, et il y a alors un remède, et il nous donne quatre éléments pour ce remède. On est toujours dans ce qu'il pointe de certaines perspectives libérales. Hein? Et là, il dit toujours, dans la suite de ce même numéro, 167, « Certaines visions libérales ignorent ce facteur de la fragilité humaine. » Voyez, donc, il faut avancer avec une politique qui puisse prendre en compte cette réalité de la fragilité humaine. Hein? Et donc là, c'est ce qu'il souligne ici, dans ce passage sur certaines visions libérales. Il dit, mais voilà, certaines visions libérales ignorent ce facteur de la fragilité humaine et imaginent un monde obéissant à un ordre déterminé qui, à lui seul, pourrait garantir l'avenir et la résolution de tous les problèmes. Pour dire simple, et il y arrive, la loi du marché. Voilà un ordre qui va nous régler tous les problèmes. Mais non ! C'est le numéro 168. Le marché, la loi du marché, si vous voulez, le marché, à lui seul, ne résout pas tout. Même si on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral, dit-il, que la loi du marché, et que le marché est ce qui va tout résoudre. Non, Le marché ne résout pas tout. Et alors au numéro 100, oui toujours au 168, il est long, mais c'est à l'autre bout du 168, à la fin. Et il prend finalement, pour signifier que le marché à lui seul ne résout pas tout, il nous dit ceci, la fragilité des systèmes mondiaux face aux pandémies a mis en évidence que tout ne se résout pas avec la liberté de marché. Marché et accent, hein? Tout ne se résout pas avec la liberté de marché et que, outre la réhabilitation d'une politique saine qui ne soit pas soumise au diktat des finances, hein? Faut que la politique ne soit pas soumise au diktat des finances. Outre la réhabilitation donc d'une politique saine qui ne soit pas soumise au diktat des finances, il faut replacer au centre la dignité humaine. Voilà. Et sur ce pilier, voilà, vous voyez, sur ce pilier, le pilier au centre, replacer au centre la dignité humaine, sur ce pilier doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin. Pour cela, il faut aussi, comme il le dit donc, une politique qui ne soit pas soumise aux diktats de la finance. Un peu plus loin, au 169, je prends une phrase comme ça, tac. La participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Je dois veiller au temps parce que l'après-midi étant plus courte, l'enseignement de l'après-midi, normalement, est aussi plus court. Donc, je vais aller à l'essentiel. Sur le plan international, quelques accents qu'il souligne, hein, dans un autre grande partie de ce chapitre 5. Voilà, je prendrai quelques accents. Au fond, et je commence avec le 172, numéro 172, il parle du 21e siècle, on est en plein dedans. Le 21e siècle est le théâtre d'un affaiblissement du pouvoir des États nationaux. Affaiblissement du pouvoir des États nationaux, surtout, c'est ça qui est important, surtout parce que la dimension économique et financière de caractère transnational tend à prédominer sur la politique. Voilà, vous voyez, quelque chose qui va prendre le pas sur la politique et qui va donc affaiblir le pouvoir des États nationaux, parce que la dimension économique et financière de caractère transnational tend à prédominer sur la politique. Et dès lors, le pape dira, il faut donc que s'instaurent des institutions internationales qui soit forte et mature, et qui soit courageuse et généreuse. Et qui soit aussi, dira-t-il, en mesure de sanctionner. Voilà. Mais, donc je lis, parce que finalement il le dit mieux que moi, hein. Dans ce contexte, la maturation d'institutions internationales devient indispensable, qui doivent être plus fortes et efficacement organisées, avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements nationaux et dotées de pouvoirs pour sanctionner. Voilà. Il y a un affaiblissement du pouvoir des États nationaux parce qu'il y a une prédomination de la dimension économique et financière de caractère transnational qui prédomine à la politique. Il faut, dans ce contexte, des institutions internationales matures, fortes, capable aussi de dire, parce que mature, là ça ne va pas. Et un peu plus loin, au 174, il faut du courage. Donc ces institutions devront aussi être courageuses et généreuses. Il dit, il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains objectifs communs et assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales. Voilà. Il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains... Faut peser les mots, hein, pour établir librement, hein, pas sous le diktat de la finance ou autre. Enfin, moi, je lis ça entre les lignes, peut-être à tort, mais voilà. Établir librement certains objectifs communs et assumer le respect, assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales. Vous voyez ? Ça me fait penser à un autre paragraphe de ce même chapitre. Je m'en vais directement vous le lire. C'est le 189 où le pape nous dit « Nous sommes encore loin d'une mondialisation des droits humains les plus fondamentaux. » Voilà. Voyez, il faut du courage et de la générosité pour pointer des choses fondamentales et assurer qu'elles soient respectées dans le monde entier. Et en effet, au 189, il nous dit « Nous sommes encore loin d'une mondialisation des droits humains les plus fondamentaux. » Et là, il prend l'exemple de la faim et de la traite des personnes. La faim, F-A-I-M, et la traite des personnes. D'un côté, on meurt de faim, de l'autre côté, on jette des tonnes de nourriture. Cela est un véritable scandale. Voilà. Je reviens en arrière là. Là où j'en étais, courage, générosité, oui. Et c'est là, dans ce fameux passage, paragraphe 174, qu'il parle de ce que je vous ai souligné déjà tantôt, les accords multilatéraux, comme devant être privilégiés par rapport aux accords bilatéraux. Non, non. Les accords multilatéraux entre les États doivent avoir une place de choix, dit-il, car ils garantissent mieux que les accords bilatéraux à deux, la sauvegarde d'un bien commun, réellement universel, et la protection des États les plus faibles. Voilà. Donc, vous voyez, dans la situation là, il souligne l'importance d'institutions internationales fortes, matures, courageuses, généreuses. Et puis, il va aussi souligner le rôle et l'importance des regroupements qu'il peut y avoir dans les sociétés civiles et associations, etc., qui ont aussi un enjeu important. C'est le 175. Beaucoup de regroupements et d'organisations de la société civile aident à pallier les faiblesses de la communauté internationale. Voilà. Son manque de coordination dans des situations complexes, son manque de vigilance en ce qui concerne les droits humains fondamentaux. La communauté internationale, voilà, nous dit le pape, n'est pas, voilà. Il lui manque de coordination dans des situations complexes. Il lui manque de vigilance en ce qui concerne des droits humains fondamentaux. Voilà. Elle est marquée de faiblesse. Et beaucoup de regroupements et d'organisations de la société civile aident à nouveau, hein. C'est pas les sauveurs. Chacun pour sa part, voyez. Aide. Ils apportent leur aide à leur mesure. Mais cette aide, elle est importante aussi, elle est nécessaire, hein, à cette charité dont chacun apporte une part. Aide à pallier les faiblesses de la communauté internationale. En ce qui concerne donc, voilà. Ainsi, le principe, voilà, de subsidiarité devient une réalité concrète garantissant la participation et l'action des communautés et des organisations de rang inférieur qui complètent l'action de l'État. Voilà. L'important, cette place-là aussi. Complète, voilà. Qui n'annule pas, non, qui apporte à sa place. Les organisations mondiales, internationales ont leurs failles, ont leurs faiblesses, l'État, les siens, toutes, même ces associations ont leurs limites, leurs faiblesses, leur tout ça, mais c'est, voilà, elles complètent. Et puis alors, c'est très beau ce qu'il dit là. Ainsi donc, la participation et l'action des communautés et des organisations de rang inférieur qui complètent l'action de l'État. Très souvent, elles accomplissent des efforts admirables en pensant au bien commun, et certains de leurs membres arrivent à réaliser des gestes vraiment héroïques qui révèlent la beauté dont notre humanité est encore capable. Voilà, c'est beau ça. La beauté de l'humanité est appelée à se voir aussi à travers ces actions. Alors je vais terminer, je pense. Avec un mot sur la grandeur politique, nous dit le pape au numéro 178. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes. Et en pensant au bien commun à long terme, à long terme. Voilà. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Je crois qu'il y a là quelque chose reconnaître chaque être humain. On voit bien que c'est la ligne qui traverse toute cette encyclique, hein, numéro 180. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur. Et chercher, j'aime bien ça parce que chercher ça veut dire ça va pas de soi, faut la chercher, la travailler, et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Voilà, reconnaître qu'on est tous frères et sœurs, chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige, dit-il, la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent possibles. Ça veut dire appel à la créativité, appel à l'inventivité. Voyez ? À pouvoir sortir de nos schémas pour adapter nos schémas à un objectif. Cela exige donc la décision, il faut le décider. Et ça, c'est la liberté de l'homme. La décision et la capacité de trouver les voies efficaces, les voies, les chemins, si vous voulez, efficaces, qui rendent réellement possible ces objectifs. Ce n'est pas des utopies. Évidemment, si je ne suis pas prêt à changer mon mode de fonctionnement, ce sont des utopies. Mais non, ce ne sont pas de simples utopies. Est-ce que cet objectif, je décide ou non ? Voilà. Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité, dit-il. Vous voyez ? Tout engagement en ce sens devient un exercice suprême de la charité. Et ça, ça peut nous rejoindre tous parce qu'on va se dire, mais ça ne nous concerne pas, hein, on n'est pas sur les listes, on ne vote pas pour nous, etc. Mais comme je disais tout à l'heure à la fin du premier enseignement, dans nos relations, dans les lieux où nous sommes, voilà, tout engagement. Il ne faut pas être Premier ministre pour ça. Il ne faut pas être député. Il faut être simplement humain. Rejoint, si nous le sommes, par cette sensibilité à laquelle nous éveille voilà le pape aussi, de reconnaître chaque être humain comme un frère et comme une sœur. Ce que nous sommes du reste en humanité. Hein? Et rechercher l'amitié sociale qui intègre tout le monde, voilà. Et bien, si j'accueille que ça, ce n'est pas une utopie, et bien tout engagement en ce sens, même le petit engagement à ma portée à moi, voilà, devient un exercice suprême de la charité. Un exercice suprême. Pas un exercice quelconque, hein, suprême de la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin. Mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Le champ de la plus grande charité, la charité politique. Parce qu'on construit ensemble, on se met ensemble pour non seulement l'aide à une personne qu'on rencontre sur notre route, hein, mais voilà, pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous. Voilà. C'est pour ça que c'est la plus grande charité de la charité politique, parce qu'elle est orientée au bien commun, à cette dimension du « pour tous ». Et en même temps, l'acte de charité que je pose concrètement envers une personne bien précise à qui je viens en aide est énorme. Et le pape va le souligner aussi à un moment donné. Voilà, c'est... Bon, j'avais dit que je terminais. Hein. Mais prenez un jour cette encyclique et faites comme je l'ai fait hier soir peut-être. Prenez-vous 2 heures devant vous. Un crayon, un fluo, un truc, et vous y allez, vous lisez le chapitre 4, le chapitre 5, et vous soulignez. Moi, c'est devenu un outil de travail, hein, c'est coloré, c'est... voilà. C'est, et du coup, on passe de l'un à l'autre. Voilà. Il y a quelque chose... voilà, vous voyez. Donc, en même temps, il parle de la plus grande charité, la charité politique, pour être... et créer des structures sociales et de justice qui soient pour tous. Et en même temps, au 195, il dira dans l'activité politique, il faut se rappeler qu'au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C'est pourquoi, voilà la phrase que je veux pointer, c'est pourquoi si je réussis, ça c'est valable aussi pour nous, hein, à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. Vous voyez, le don de ma vie, le sens de ma vie, voilà, si je peux aider déjà une seule personne à vivre mieux. Oui, je voulais souligner ça avec le pendant de ce qu'il évoque dans la charité politique, où il s'agit de façonner la structure de la société de manière à ce qu'elle soit au service, voilà, du bien pour tous, et en même temps le relationnel à ne fût-ce qu'une personne à un prix, entre guillemets, inestimable, pour l'aider à vivre mieux. Et donc, c'est, voilà, c'est quelque chose de grand. Je termine ce numéro 180. Il s'agit de progresser. Progresser, voilà. Il ne nous dit pas qu'il faut y être ce soir. Progresser, faire un pas. Voilà. Il s'agit de progresser vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale. Progresser. J'appelle à réhabiliter la politique, qui est une vocation très noble. Elle est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun. Voilà. Ce qui est touchant à travers aussi cette encyclique finalement, c'est quels que soient les chapitres qu'on y parcourt, on y voit toute cette dignité de la personne humaine qui sans cesse est appelé à revenir au centre de tout ce que l'on peut construire au cœur de notre humanité et aussi de chacun de nos chemins de vie respectifs. que cela puisse nous donner de, voilà, de pouvoir aussi nous laisser interpeller, nous laisser mettre en route, laisser Dieu convertir notre regard. Notre regard, sur l'autre, sur les autres. Notre regard, voilà. Pour toujours avancer sur un chemin de croissance. Un chemin de croissance, voilà. Je crois que c'est aussi pour cela que Jésus a parfois interpellé, comme je le disais ce matin à la messe. Quand il interpelle, c'est toujours pour mettre sur un chemin de croissance, pour encourager, jamais pour enfoncer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.